Alors vous savez, on approche de cette période de l'année où on fait un peu le bilan. Bon, il reste un trimestre, mais quand même en fin de deuxième trimestre, je vois à l'académie et puis dans les lieux où j'ai enseigné, ou plutôt au contact des élèves, c'est toujours un peu les mécanismes qui reviennent. Et il y a cette période où parfois certains élèves, certains musiciens, sont un petit peu désemparés, ils se posent beaucoup de questions, ils doutent, ils sont pas sûrs d'être sur le bon chemin, alors ils se découragent. Ils hésitent, ils se demandent s'ils ont fait les bons choix. Bon, ils se découragent. Voilà, ça c'est pas une constante, mais ça arrive assez souvent. Et c'est là où beaucoup d'élèves, beaucoup, alors les jeunes et les moins jeunes, parce que ça concerne tout le monde. Ça m'a concerné moi, ça pourrait me concerner. Peut-être un petit peu moins maintenant, pas du tout que je sois différent ou que je sois totalement dégagé de ces contingences émotionnelles, pas du tout. Mais simplement peut-être. Le fait d'en parler et d'avoir réfléchi à des stratégies m'a permis un petit peu d'être moins victime, on va dire. Voilà, j'arrive un petit peu à dépasser. J'ai des périodes parfois un petit peu de désarroi, mais j'ai un petit peu pensé à des stratégies sur la façon un petit peu de dépasser justement ces écueils, ces pièges, de ne pas laisser les baisses de morale nous plomber complètement. C'est vrai que dans une vie de musicien, on a mieux à faire que de se lamenter, d'être là. On se lève, ah, je sais pas si j'ai fait les bons choix. Est-ce que c'est, ah, je me sens lent, je comprends rien, je suis nul, j'arrive pas. Voilà. Bon, on entend ça très souvent et voilà. Ça me permet un petit peu d'auto-promo, puisque vous savez que personne ne le fera à part moi, puisque cette chaîne n'est subventionnée par personne. D'ailleurs, je vous reparlerai, on fera bientôt le bilan de Fling. Je vous expliquerai exactement qui m'a aidé, vous m'avez aidé. Pour le reste, zéro. Ça me permettra de parler de la culture en France, sans rancœur, hein, pas du tout, c'est pas le style de la maison, faut pas avoir d'amertume dans la vie, ça sert à rien, ça consume. Mais plutôt pour réfléchir aux enjeux, est-ce que la culture est libre? Est-ce qu'elle est sous influence? Je ne sais pas, peut-être de forces obscures. Voilà. Donc, ça fait partie du livre, puisque là, on va parler de l'épanouissement artistique. Alors, je vais essayer de pas trop m'éparpiller. Si vous voulez, encore une fois, une pensée structurée, écrite, bon, bah, évidemment, c'est le médium, comment dire, écrit, c'est le médium littéraire. Hein, c'est là que ça, c'est vraiment. J'ai mis tout ça organisé de manière conséquente, quoi. Et là, ça va être swing un petit peu, quoi. On improvise, hein, c'est un peu. C'est une autre façon d'aborder ce problème, cette question, ce sujet. Et je vais essayer de pas trop m'éparpiller. Alors, donc cette histoire en réalité de découragement, voilà, le désarroi, les gens, les élèves qui viennent me voir, les musiciens qui pourraient venir me trouver en me disant, là là, je suis nul, je suis lent. Bon, alors déjà, première chose à comprendre, c'est que ça concerne tout le monde. Voilà. Je sais, je vais enfoncer plein de portes ouvertes. Il y a beaucoup de musiciens qui vont me dire, oui, mais je sais, je sais. Bon, c'est peut-être bien quand même de rappeler les choses. Il n'y a pas un musicien, parmi les plus illustres musiciens qu'on pourrait citer, parmi toutes nos idoles, hein, moi j'ai les miennes, vous avez les vôtres, voilà, il n'y a pas un musicien qui n'a pas traversé cette période où il se trouvait un peu pas très doué. Les vrais surdoués, complètement vaniteux, qui ont tout surplombé, en disant, mais moi, de toute façon, tout a été doré, tout a été facile, il y en a. Mais c'est pas une constante. Il y a des exceptions. Il y a quelques surdoués. Et puis, on peut aussi aller regarder dans les biographies des musiciens qu'on adore et qui sont passés par ces périodes de dépit, parce que c'est riche d'enseignements et ça nous permet de comprendre comment eux ont dépassé ça. Et puis surtout par un mécanisme d'empathie, ça nous permet de nous identifier. Et ça, c'est très sain parce qu'on se dit, voilà, je suis pas seul. On n'est jamais seul, hein. Tout ce que je vais dire là, tout ce que vous vivez, tout ce que si vous suivez cette vidéo en vous disant, mais oui, c'est vraiment, je suis d'accord avec ça. C'est vrai que parfois, ça va pas, je suis perdu, je sais pas quel prof aller voir, je sais plus quoi travailler, je sais plus quoi jouer, j'avance pas. Bon, on est tous passés par là. Alors, d'ailleurs, par rapport à cette histoire de lenteur, ça c'est très drôle parce que ça c'est une constante, ça revient souvent. Bon, je pense à mes élèves parce que je donne mon témoignage le plus direct parce que c'est celui qui est le plus authentique et ça me permet de ne pas me servir de la pensée d'autrui. Je peux vraiment donner mon expérience immédiate. Chaque année, mais c'est vraiment, c'est constant, c'est un invariant des cours que je dispense à l'académie. J'ai toujours un, deux, trois élèves qui me disent, ah là là. Tu dois t'ennuyer, tu dois me trouver lent, tu dois me trouver lente. Oh, j'arrive pas, je me trouve nul et tout. Je l'entends tout le temps. Alors, il y a un travail pédagogique de dire, mais chacun va à son rythme et puis les progrès sont là. Le rôle du prof, c'est aussi à ce moment-là de dire, écoute, toi, peut-être selon ton exigence, selon les comparaisons que tu effectues, tu te trouves lent ou tu te trouves lente, parce que j'ai des élèves femmes aussi. Mais je lui dis, moi, par contre, en tant que prof, là, tu dois accepter, tu dois entendre la parole du prof qui te dit, moi, je vois que les progrès sont là. Voilà, c'est ça. Le rôle de l'enseignement, c'est simple, pas simplement pour gagner du temps. On oublie cet aspect aussi un petit peu de la démarche pédagogique, du tandem élève-maître, où le maître aussi est là pour dire « ça ne va pas, tu as mal fait », mais aussi pour dire « tu penses que tu as mal fait, mais moi je sais que tu as bien fait, tu es sur la bonne voie, et il faut que tu entendes ma parole ». Ce tandem-là aussi, il est plus subtil, il est moins évident, mais il est très important. Pour le dire très simplement, le prof doit aussi rassurer l'élève, il doit l'encourager. Et il faut que ces encouragements soient perçus par l'élève comme quelque chose de très sincère. Ça veut dire qu'il ne faut jamais se payer de mots, et ça veut dire qu'il ne faut jamais flatter. Il ne faut jamais être dans la flagornerie, parce que l'élève le perçoit, et à partir du moment où l'élève perçoit que le prof est là un petit peu dans la flatterie, il dit « oui, c'est très bien », mais que c'est insincère, le jour où on a besoin de sortir le joker de la sincérité que le prof a besoin de dire « écoute, là, moi, je sais, tu dois me faire confiance, je sais que ce que tu fais, c'est très bien », si l'élève a un doute, ça marche plus. Vous voyez ? Donc, c'est un des maîtres mots, c'est l'authenticité, la sincérité dans l'échange, dans les deux sens, mais surtout de la part du maître, de la part du prof, quoi. Quand je dis maître dans le livre, parce que c'est une référence au magistère, au sens historique, au sens le plus large. Donc déjà, ça arrive à tout le monde. D'ailleurs, il y a une référence que je donne dans le livre, j'en donne plusieurs, et celle-là, je crois que je ne l'ai pas sourcée, c'est Michael Brecker, qui était interviewé en 1996. Je mettrai l'insert YouTube, et il est dans son studio, et donc c'est un vidéaste, alors 96, hein, c'est VHS, le son n'est pas terrible, mais on l'entend parler de sa méthode de travail, de la façon dont il s'organise, il se donne des exercices, et il répond au journaliste, un musicien qui lui pose des questions, et à un moment il lui dit « voilà, je me fais des exercices, ça me prend beaucoup de temps, I'm very slow, je suis très lent ».
Actually comes from an approach that I was taught by a gentleman named Gary Campbell many years ago, a great saxophonist who lives in Miami. So I'm always working on new ideas. It takes me a long time, I'm very slow, to get new things, new harmonic ideas to actually translate into my playing. Sometimes a period of months. Sometimes it takes learning something real well and then forgetting about it, and eventually it comes out.
C'est Michael Brecker, le mec qui joue à 300 000 à l'heure, qui a une carrière comme ça, qui a révolutionné le hard bop, qui a fait du... Enfin, Brecker, quoi, les Brecker Brothers, moi je les ai vus je ne sais combien de fois en concert. Et le mec te dit quand il travaille que c'est difficile et qu'il se trouve... Il est très lent. Ah, qu'est-ce qu'on fait de cette information? On la prend, on la laisse, on dit ouais, mais... Non, mais il dit ça, mais... Non, regardez la vidéo. Il est d'une sincérité confondante. Il est parfaitement... Il se met à nu et il n'a aucune raison de mentir. C'est sa perception. Et c'est ça qui est très important. C'est pas la réalité, c'est pas vrai ou faux. Il n'y a pas d'échelle de valeur. Il n'est pas en train de se dire « je suis plus rapide qu'un tel » ou « je suis plus lent qu'un tel ». Lui, selon la perception qu'il a de son propre travail, se considère lent. C'est ça la clé. Ce qui est le cas de tous les musiciens, tous les élèves qui vont se dire « ah, je suis lent ». C'est exactement le même processus. Donc que ce soit une icône, un mec mondialement connu, ou que ce soit un élève, un débutant ou un musicien professionnel, en fait, n'importe qui, ça concerne tout le monde, cette perception, finalement, elle est totalement illusoire. Ou plutôt, c'est pas ça qui nous intéresse dans le moteur de la progression. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, ce qu'il faut bien scruter quand on a ces espèces de baisses de motivation, quand on a l'impression de ne pas aller assez vite, c'est il faut sculpter. Alors, il y a plein d'éléments. Puis je ferai d'autres vidéos. Ça peut être le mauvais prof, ça peut être la dynamique de vie, ça peut être les mauvais choix, les mauvaises rencontres. J'en reparlerai. Il faut toujours aller vers les bonnes personnes. Il y a des tas d'écueils à éviter, pardon, dans sa vie de musicien, mais dans sa vie tout court. Mais ça se télescope. Mais peut-être une chose plus importante à saisir, c'est la méthode. La méthode de travail. Il se peut, parmi tous les éléments que j'ai évoqués, que la méthode ne soit pas la bonne, soit que ça ne soit peut-être pas optimal. Alors, il y a des tas de façons de faire, il y a des tas de méthodes qui existent. Moi, j'ai toujours, pour donner un conseil très simple, je fais toujours des listes comme ça, j'ai toujours pensé qu'il fallait se donner des objectifs et essayer de les respecter le plus possible. C'est-à-dire, décider, par exemple, que sur une journée de travail, on va faire, je ne sais pas, 20 minutes d'exercice, 30 minutes de répertoire, 40 minutes de rythme, une répétition l'après-midi, une gamme, du déchiffrage, une dictée, j'en sais, enfin tout ce qui concerne l'épanouissement et qui correspond à l'épanouissement du musicien, et surtout là où il en est dans son apprentissage. Et ça, je pense que d'avoir dans une méthodologie une liste, vraiment avec la to-do list, avec des cases à cocher, eh bien... Alors ça marche pour moi, mais j'ai vu que ça marchait beaucoup avec les élèves, et quelle que soit la psychologie de l'apprenant, eh bien ça rassure, parce que ça donne un cadre, et ça permet de limiter l'apprentissage et ça permet de mettre son temps à profit. Et ça, c'est très important parce que le danger, ce qui fait que parfois on est au bord de l'abattement, c'est l'éparpillement. Ça, c'est un danger. Et pour éviter l'éparpillement, bah, c'est compliqué, il faut se recentrer, il faut se resserrer, quitte après à passer à autre chose. C'est-à-dire, bon, j'avais dit que je travaillais 3 heures, il est 3h10, maintenant je vais me promener. Je vais voir un film, je lis, j'écris, je fais autre chose, je vois des copains, j'en sais rien, je fais du Scrabble, je fais des mots croisés. Je me change les idées et je considère qu'à ce moment-là, ce que je m'étais assigné comme tâche, c'est fait. Je peux continuer à faire de la musique si je veux, mais c'est du plus. Ça, je pense, pour l'avoir vécu, que psychologiquement, ça envoie un signal qui est très positif parce que, encore une fois, ça évite de s'épuiser, qu'on se dise « Ah, j'ai pas fait assez, j'aurais dû en faire plus ». Non, non, à chaque jour suffit sa peine, c'est impensif. Je vous ai dit qu'on allait enfoncer les portes ouvertes, mais c'est pas pour rien que ces proverbes existent. Parce qu'ils sont d'une intelligence, ils sont d'une profondeur qui est cachée sous le fait qu'ils sont usés jusqu'à la trame. En réalité, il y a une sagesse derrière tous ces dictons. Voilà. À chaque jour suffit sa peine, c'est important de savoir s'organiser. Donc la méthode, ça c'est important. Après, pour terminer, deux petits points. Ce qui est très important dans cette progression pour enjamber la frustration, le désarroi, cette impression d'être nul, de pas avancer, d'être lent. Je le dis, je l'ai beaucoup redit, je le dis à tous mes élèves, ça fait partie du livre. La clé, c'est le plaisir. Cette aventure, ce travail, là on va parler de piano, mais de l'harmonie, de n'importe quel instrument, ce travail artistique, c'est un travail qui est lié à la passion, il est indissociable du plaisir. À partir du moment où on va vers une espèce de masochisme, ça n'est pas possible. On ne peut pas réussir, on ne peut pas s'épanouir, cet essai est sur l'épanouissement artistique, on ne peut pas s'épanouir dans la frustration et le masochisme. Pourquoi ? Et j'emploie ce mot à dessein, parce que chez certains élèves que j'ai, ils me disent « Ah, mais tu sais, je travaille beaucoup, j'ai des exercices, mais tu vois, je termine. » Je dis « Oui, mais attention, il y a les exercices, mais il y a un confort masochiste dans la pratique des exercices. Parce que c'est facile, je me fais du mal, comme ça, hein, je travaillais encore et encore. Ah, j'ai une super technique, quoi. J'ai fait ma marche d'harmonie, alors je l'ai fait dans tous les tons, à 200 à la... Je progresse pas. » Voilà, parce que ça, si à un moment, on est simplement dans la reproduction mécanique de quelque chose qu'on maîtrise parce que ça rassure, mais qu'il n'y a plus de plaisir et qu'au bout du compte, c'est simplement du découragement, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Donc, le travail doit toujours aller de pair avec le plaisir. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand on sent que, encore une fois, le dépit pointe le bout de son nez, il faut réactiver les vieux gestes, il faut aller chercher des morceaux qu'on aime jouer, il faut prendre du plaisir à l'instrument, faire des petites choses, aller faire un bœuf, écouter de la musique, sortir de l'académisme et sortir de l'exigence pour se reconnecter avec la passion. C'est hyper important. On a l'impression, chez certains élèves qui sont vraiment en se disant « Non, mais moi, de toute façon, je veux rentrer dans tel conservatoire, je vais faire carrière, il est hors de question que je perde mon temps, je dois être dans l'exigence, travail. » Ça marche pas comme ça. Vous allez vous épuiser, vous allez vous désespérer. Il faut toujours réactiver le plaisir. Vous ne pouvez pas, de toute façon, avoir l'ambition de faire ce métier, que ce soit pour enseigner ou pour monter sur scène, faire ce métier, même si vous êtes amateur, il y a un moment on peut pas, mais je m'adresse, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent la chaîne, qui sont semi-pro ou complètement professionnels, ou des jeunes qui veulent le devenir, et qui sont dans cette espèce, souvent les jeunes au conservatoire, ils sont dans un environnement très compétitif, et là ils voient des mecs qui jouent, on a toujours l'impression qu'il y a un mec qui joue plus vite que soi, ah là là, mais lui, oh, il joue tel morceau, ah là là, mais comment je vais faire, je vais jamais y arriver, ah faut que je travaille, oui, à un moment, bien sûr qu'il faut travailler, mais faut pas s'épuiser non plus, il y a un moment, vous ne serez jamais autre chose que quelqu'un d'autre que ce que vous pouvez être et de qui vous êtes et de ce que vous ferez de votre vie et de vos 10 doigts et de vos oreilles et de votre cerveau. Donc, il y a un moment, faut se reconnecter au plaisir. Voilà. C'est pas simplement un truc à penser à faire de temps en temps. C'est capital. Et ça, cette reconnexion au plaisir, elle doit toujours aller de pair avec le travail. Voilà. On peut avoir des phases où, bon, c'est un peu chiant, ok, on travaille, c'est pénible, mais ça, très très vite, ça doit tout de suite trouver une répercussion, un écho dans une phase de mise en œuvre, de plaisir, dans la pratique artistique. J'insiste, hein, vraiment, s'il n'y a pas ça, c'est tous les gamins qui arrêtent. Tous les gamins qui arrêtent, qui sont là, on les a fait travailler, t'as des exercices, alors on continue, donne-toi du mal, souffre un peu, tu verras, tu me remercieras, la moitié arrête, les trois quarts arrêtent, parce que c'est pas humain. Bien sûr que on est dans cette société où on veut tout vite et tout facile, donc faut voir d'où je parle. Évidemment que les gamins sont trop aujourd'hui dans la facilité, l'immédiateté, ils ne veulent plus faire d'efforts. Donc évidemment qu'il faut en réintroduire un petit peu. Mais là, je parle des gens qui sont carrément, dans plutôt de ma génération, qui viennent de l'autre monde, où on ne nous vendait que du travail et de l'exigence. Et la complaisance et la facilité et la fainéantise et les réseaux sociaux et le gaming, ça existait. Il y avait la télé, cela dit déjà, mais c'était pas dans les mêmes proportions qu'aujourd'hui. Voilà. Donc il faut rééquilibrer ça. Et puis pour terminer, c'est le corollaire un peu de cette histoire de plaisir. En réalité, une des clés pour ne pas être victime de cette espèce de sentiment de dépit, de désarroi dont on a beaucoup parlé là, c'est de comprendre que être musicien, être artiste, c'est prendre pied sur un sentier. Voilà. C'est un chemin. C'est un chemin de connaissance. C'est un chemin de progression. C'est un chemin initiatique. Il y a une forme de connaissance initiatique dans l'apprentissage de l'art, puisque c'est une introspection. Et il y a deux éléments, et là je repense à Georges Pasinski, parce que ce sont précisément les deux mots-clés, c'est le chemin et le but. C'est-à-dire qu'on s'imagine à tort, et là il faut bien comprendre de quoi on parle, on s'imagine à tort, j'insiste bien, que le chemin, dans son sens même, le sens du mot chemin, on s'imagine qu'on va arriver quelque part, que ce chemin, ce sentier, cette route, qu'on a prise pour aller vers plus de maîtrise artistique, vers plus de concerts, vers plus d'argent, vers la progression, vers apprendre plus de choses, devenir meilleur artiste, meilleur musicien, meilleur comédien, meilleur chanteur. Ce chemin va nous amener d'un point A à un point B. Donc, en quelque sorte, ce chemin nous mène à un but. Voilà. Ça, c'est une pensée, parfois, qu'on n'a pas forcément conscientisée. C'est un truc qui est comme ça, on se dit, bah oui, je vais travailler un peu, puis l'année prochaine, comme ça, j'aurai maîtrisé. Moi, quand j'étais au conservatoire, je vais bosser telle étude de Chopin, après, je ferai Liszt, après, machin, puis après, je ferai le jazz. Et donc, je vais apprendre 50 standards. Et puis après, comme ça, je ferai ça. Et puis quand je jouerai à 300, après, je mets, en me disant, voilà, et à chaque fois, je vais arriver, et je vais franchir des paliers, et puis là, une fois que je serai là, je serai arrivé. Bon, peut-être que je pourrais poursuivre, mais, donc, l'idée de but, l'idée de finalité, l'idée d'objectif. Voilà. Alors, on l'a pas forcément identifié, mais inconsciemment, parfois, en se disant, le fait même de dire « Ah, je suis trop lent » ou « Ah, j'arrive pas », c'est déjà reconnaître que ça veut dire quoi, lent ? On est lent si on a besoin d'arriver à un certain moment quelque part. Si je dis « Bah oui, si je dis « Mais je sors de chez moi », je dis « Ouais, mais non, tu marches un peu lentement », je dis « Mais je m'en fous, je vais nulle part ».« Ah bon ? Ah non, je me promène ». Mais tu te promènes pas vite, oui, mais j'ai envie de me promener vite. Ben moi, je vais me promener vite. Mais pourquoi tu... Parce que je vais fermer. Ah, donc tu as un but. Tu vas d'un point A à un point B. Ok, vous avez compris la métaphore. J'arrête d'être lourdingue avec ça. Mais pourquoi ? Parce qu'en réalité, eh bien, le chemin, c'est le but. Ou, nécessairement, le but, c'est le chemin. Voilà. Alors... Ça paraît un peu léger, on se dit c'est un peu facile comme ça. Non, non, c'est très profond en réalité. C'est accepter que le chemin, que la progression, j'allais dire initiatique, artistique, mais c'est tout un, eh bien en fait, c'est un puits sans fond. Alors la métaphore du puits n'est pas très bonne parce qu'on ne va pas tomber, on va s'élever, on va dire plutôt c'est l'ascension d'une montagne, mais qui n'a pas de cime, qui n'a pas de hauteur. Ce chemin ne s'arrête jamais. Ce chemin ne s'arrêtera jamais, parce que par définition, la progression artistique n'est pas quantifiable, elle n'est pas rationalisable, et on ne peut pas dire « ça y est, je suis arrivé à l'objectif que je m'étais fixé ». Ça, ça n'est pas de l'art. Ça, c'est des maths, c'est de la géométrie de plan. Quand je vais additionner une bille plus une bille, j'aurai deux billes. Ça, ça marche. Sorti de ça, lisez Kant, il n'y a rien qui... on peut rien savoir d'autre que ça. Et on ne peut certainement pas savoir à quel moment on va être arrivé au bout de ce qu'on pouvait dire, ressentir, aimer, créer. Tout ça, c'est un chemin qui est complètement irrationnel. Donc encore une fois, je disais, l'important, c'est de prendre du plaisir, parce que, étant donné que le but, c'est le chemin, que le chemin lui-même est le but, eh bien, on ne peut pas simplement se dire, bon, bah, je suis en train de marcher, je suis en train de randonner, et puis bon, je m'ennuie un peu, mais c'est pas grave. Quand je serai arrivé, le paysage serait joli. Non, non. C'est sur ce chemin qu'il faut déjà prendre du plaisir. L'épanouissement, il doit déjà être à l'œuvre. Quand on est en train, là, qu'on a pris pied sur ce sentier de la connaissance, il faut déjà que l'épanouissement soit à l'œuvre. Sinon, c'est pas possible. Voilà. Et pour terminer, sinon je vais me paraphraser. Alors, je vais vous lire un extrait un extrait de L'élève et le maître. C'est dans le chapitre 3, c'est la fin. C'est le chapitre 2. Et le chapitre 2, c'est l'épanouissement, bah, précisément. Et donc, je parle de... le chapitre s'appelle « Le but et le chemin ». Alors, je reparle de Georges. Georges Pazinski, avec qui j'ai eu la chance de jouer, d'enregistrer et de développer des liens amicaux, est à cet égard le meilleur exemple que je puisse invoquer. S'il y a plus de 80 ans, Georges continue de travailler la batterie, ce n'est pas seulement pour entretenir des enchaînements rabâchés depuis plusieurs dizaines d'années, bah oui, c'est de son propre aveu pour faire évoluer sa technique. Sa technique, hein. Ce qu'il me dit, il m'appelle tout le temps, oh, tiens, j'ai trouvé un nouveau truc, regarde, écoute, t'as vu, c'est bien, là, j'ai changé un peu mon doigt sur la baguette, tu vois, oh, j'effleure, tu vois. Sa conception du rapport à l'instrument consiste en une remise en cause permanente des acquis. Alors, c'est peut-être trop, dans son cas, Georges, lui, c'est un ultra, il serait en permanence, ça sera. Mais, je veux dire, par l'outrance, il y a une info qui passe quand même, quoi. Un questionnement incessant et parfois radical sur la pertinence d'un geste, d'un tempo, d'un simple coup de baguette. Sa discipline ne le rapproche pas d'une ligne d'arrivée symboliquement fatale. Elle l'en éloigne toujours plus. Ah oui, sur ce chemin, il ne s'arrête jamais. Sa quête constante procède de l'entretien du désir, de l'élan vital, de l'acceptation amoureuse et quasi monacale de sa perfectibilité. Perpétuellement remettre l'ouvrage sur le métier, sans jamais guetter l'horloge, sans attendre le signal indiquant l'imminence d'une conclusion, là est le message de Georges et de cette classe d'artistes sans pareil, qui, s'ils pouvaient vivre éternellement, se mettrait éternellement au travail, la recherche du beau chevillé au corps. Mieux que de rechercher la perfection, il nous faut apprendre à rendre la recherche parfaite. Voilà pour ces petites réflexions autour du dépit, du désarroi, du découragement qui pointent parfois chez certains musiciens. Et donc cette réflexion sur le chemin, le but, le plaisir à retirer, de mettre un peu de pensée, un petit peu de philosophie, c'est un peu pompeux comme terme, mais disons un peu de... Oui, de prendre un peu de hauteur par rapport à son travail, je pense que parfois ça aide, et ça évite de trop souffrir parfois, ça élargit un peu les horizons. Je vous rappelle que mon essai est disponible un peu partout, notamment sur le site de l'éditeur, le disque aussi, Fling, pour ceux qui veulent soutenir la chaîne. Vous pouvez, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site aussi, hein, pianojazzconcept.com, il y a plein de partitions, plein de méthodes. Vous savez que j'ai pas d'annonceur, je n'ai pas de sponsor, comme on dit. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire ? Je suis malheureusement obligé de reporter le concours d'harmonisation. J'ai beaucoup de gens qui m'en parlent, beaucoup d'internautes. Alors, quand est-ce que tu vas refaire le concours d'harmonisation ? Il aura lieu, mais le problème, c'est que, encore une fois, comme je suis tout seul, en fait, il faut que je choisisse un moment où je suis disponible pour recevoir toutes les vidéos. Et là, la période, là, au printemps, n'était pas du tout propice. Cet hiver, il y a eu toutes les sorties, disques, les concerts. Bon, puis là, je suis sur des gros projets qui sont chronophages, donc malheureusement, je peux pas le faire. Donc, je pense que c'est reporté en octobre ou novembre. Mais ce sera fait avant la fin de l'année. Et j'ai une très bonne nouvelle, c'est qu'il y aura parmi les membres du jury, il y aura des invités prestigieux. Voilà, je vous en reparlerai, je vous en dirai un petit peu plus le moment venu. Prochaine vidéo, normalement, ce sera autour de Life on Mars, puisque ça fera écho à la vidéo sur Comme d'habitude. Vous pouvez liker, évidemment, activer les cloches, vous abonner, me dire ce que vous en pensez. Et en attendant, ma foi, portez-vous bien.